l'écoute de RFI, 22h30 à Bamako et Lomé, une heure de plus à Kinshasa.
Afrique Soir.
Zéphirin Kouadio, on vous retrouve pour les dernières infos du continent. Bonsoir Zéphirin.
Bonne nuit Mathis Slimano, bonsoir à toutes et à tous. À la une des images des militaires maliens prisonniers du front de libération de l'Azawad sur les réseaux sociaux. Le FLA confirme avoir tourné cette vidéo, mais assure ne pas être à l'origine de sa diffusion. Mise en garde des autorités togolaises aux étudiants qui partent pour Moscou et se retrouvent aux côtés des forces russes en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères a été saisi de plusieurs cas. En République démocratique du Congo, l'appel de l'opposition à une solution congolaise à la crise dans l'Est. Les principaux leaders de l'opposition ont signé un communiqué conjoint pour la mise en place d'un dialogue interne. À la une également, le président sud-africain Cyril Ramaphosa demande la création d'une commission d'enquête sur d'éventuelles tentatives d'entrave aux investigations et poursuites pour les crimes de l'époque de l'apartheid. Et puis la fête du travail au Sénégal, pas de défilé cette année, mais un grand rassemblement à l'appel de l'ensemble des centrales syndicales dans un contexte social tendu. Enfin, comme tous les jeudis, Hervé Mandina alias DJ Facemaker nous rejoindra dans un gros quart d'heure pour la sélection Afro Club et l'incontournable séquence rétro du jeudi. C'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis mardi soir, celle des militaires maliens prisonniers du front de libération de l'Azawad. Les rebelles indépendantistes détiennent effectivement une vingtaine de soldats maliens et deux mercenaires russes du groupe paramilitaire russe Wagner. Ces soldats avaient été faits prisonniers entre septembre 2023 et juillet 2024 lors de différents combats, notamment ceux de Tinzawaten en juillet dernier. Le FLA confirme donc avoir tourné cette vidéo, mais assure ne pas être à l'origine de sa diffusion, des images auxquelles David Baché a eu accès.
Regroupés devant une bâche orange dans un désert rocheux, les 21 militaires déclinent leurs noms, matricules et affectations. Les deux mercenaires de Wagner, également détenus, ne font pas partie du groupe. Le FLA confirme à RFI avoir tourné cette vidéo tout récemment dans un cadre très particulier. Un espion de Bamako aurait proposé à des combattants du FLA de l'argent pour organiser l'évasion des militaires. Les rebelles lui auraient transmis cette vidéo comme preuve de vie avant de lui tendre un guet-apens et de le capturer. Quant à la vidéo des soldats, elle n'avait selon les rebelles, pas vocation à être diffusée. Des portes avaient été ouvertes à ceux qui peuvent obtenir leur libération, confirme à demi-mot une source sécuritaire malienne qui poursuit « aucune libération n'est gratuite ». Une autre source sécuritaire malienne affirme avoir reçu la vidéo plusieurs jours avant sa diffusion. Début avril, un commandant du FLA a été arrêté au Niger. Cette vidéo pourrait-elle être liée pour un éventuel échange ? En aucun cas, cela n'a rien à voir, assure un dirigeant rebelle. Des dynamiques sont déclenchées pour la libération de prisonniers, réagit de son côté une source sécuritaire malienne, sans préciser. En tout état de cause, cette vidéo rassurera les familles des militaires détenus à l'affût de la moindre nouvelle.
David Baché, puis la mise en garde des autorités togolaises contre de fausses promesses de bourse pour aller étudier en Russie. Le ministère des Affaires étrangères a été saisi de plusieurs cas de ressortissants togolais partis dans ce cadre et envoyés en Ukraine pour se battre aux côtés des forces russes. La société civile avait déjà alerté récemment sur un cas similaire. Les précisions de Magali Lagrange.
Des ressortissants togolais détenus en Ukraine, capturés par les forces armées ukrainiennes alors qu'ils participaient à des opérations militaires aux côtés des forces russes. Une situation préoccupante. Les autorités togolaises ont récemment été saisies de plusieurs cas. Elles n'en précisent pas le nombre. Selon le ministère togolais des Affaires étrangères, ces personnes sont principalement de jeunes étudiants. Ils auraient quitté le Togo dans le cadre de prétendues bourses d'études universitaires proposés par des structures qui disent être basées en Russie. Ce n'est pas la première alerte. Il y a quelques semaines, le mouvement Martin Luther King dénonçait la situation d'un jeune Togolais emprisonné en Ukraine. Selon le MMLK, le jeune homme est parti en Russie en août pour poursuivre ses études, mais une fois sur place, il est finalement envoyé sur le front ukrainien avant d'être capturé. Face à ce phénomène, les autorités togolaises appellent les jeunes à la plus grande vigilance avant de partir étudier à l'étranger, en particulier en Russie. Ils doivent se rapprocher des services compétents, notamment du ministère de l'Enseignement supérieur, pour vérifier l'authenticité des offres qui leur sont proposées.
En précision signée Magali Lagrange, et puis une nouvelle disparition au Burkina Faso, et pas des moindres. Abdulaziz Kongo, l'un des frères du Moro Naba, le roi de la communauté Mossi, aurait été kidnappé mercredi à Ouagadougou, dans des circonstances que Frédéric Gara nous raconte.
Abdulaziz Kongo aurait été arrêté ce 30 avril par des individus se présentant comme membres des forces de sécurité. Abdulaziz Kongo, qui est le demi-frère du Moro Naba, le roi des Mossi, avait donné en septembre dernier une interview sur le site Faso.net. Dans cet entretien, il suggérait que les autorités coutumières et religieuses du Faso fassent respecter les engagements pris, notamment lors de la transition entre le colonel Damiba et le capitaine Traoré en octobre 2022. À l'époque, ces autorités se voulaient être les garantes d'une transition pacifiée entre les deux putschistes, le nouveau dirigeant Traoré devant veiller entre autres à la réconciliation nationale, au respect des engagements avec la CEDEAO ou à la cohésion au sein des forces de sécurité, des sujets devenus depuis ultra sensibles et irritants au sommet de l'État. Facteur aggravant, il y a peu, le Moro Naba aurait reçu, lui, une demande de la part du capitaine Traoré pour jouer les médiateurs dans les rangs d'une armée de plus en plus fébrile, demande déclinée par le roi des Mossi. 24 heures plus tard, son frère était arrêté.
Un récit signé Frédéric Gara. En République démocratique du Congo, face aux poursuites judiciaires visant l'ancien président Joseph Kabila, l'opposition tente de resserrer les rangs. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Déli Sessanga ont signé mercredi une déclaration commune. Dans ce texte, ils appellent à la mise en place d'un dialogue interne pour une sortie de crise dans l'Est. Les précisions de Patient Ligaudi.
Pour les quatre signataires, un dialogue national est indispensable. Il doit permettre, selon eux, d'identifier les causes profondes de la crise et de proposer des solutions durables. Ainsi, les quatre réaffirment leur soutien à l'initiative conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, qu'ils présentent comme la seule démarche congolaise ouverte à toutes les parties. Ils appellent aussi les autres acteurs, notamment l'Union africaine, les facilitateurs de Doha et de Washington, à soutenir cette initiative congolaise et à coordonner leurs efforts dans l'intérêt de la stabilité du pays et de la région des Grands Lacs. Les quatre saluent les déclarations conjointes signées récemment entre la RDC et la FCM23 et Kinshasa et Kigali. Ils estiment que ces textes ne suffisent pas. Ils ne traiteraient, selon eux, que des dimensions extérieures et militaires, souvent au détriment de la RDC. Les quatre insistent, les causes internes doivent être prises en compte. Ils citent la violation de la Constitution, la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, les atteintes aux libertés fondamentales. À cela s'ajoutent, selon eux, des causes externes comme la violation des frontières ou l'exploitation illégale des minerais. Et ils concluent en exigeant la publication des accords économiques sous-régionaux. Objectif, garantir la transparence et informer le peuple, disent-ils.
Patient Ligaudi, et cet appel de l'opposition survient alors que la justice militaire a officiellement transmis au Sénat une requête pour la levée de l'immunité de Joseph Kabila. L'ancien président, désormais sénateur à vie, est accusé de trahison, de participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est soupçonné de lien direct avec l'Alliance Fleuve Congo, la branche politique du M23. Ses proches dénoncent une dérive dictatoriale. Arlette Odia est juriste et cadre du PPRD.
C'est ahurissant et décevant.
Voir un président de la République en fonction s'en prendre à son prédécesseur appartient à une autre époque. Quand il y a des éléments répréhensibles contre un ancien président de la République, il faut, sur base des éléments et des preuves, saisir le Congrès, le Sénat, l'Assemblée nationale réunie en Congrès. Actuellement, est-ce que le président Kabila a des députés au sein de cette Assemblée nationale, au sein de ce Sénat? Non, nous n'avons pas participé aux dernières élections. C'est supposé que le Congrès ou l'Assemblée nationale et le Sénat dans son ensemble n'ont pas nos partisans. Mais pourquoi ils ne veulent pas respecter la procédure? C'est d'abord parce qu'ils n'ont pas des éléments de preuve et ensuite parce qu'ils ne peuvent pas convaincre l'ensemble des participants à ce congrès que le président Kabila serrait de mèche avec les rebelles ou avec la rébellion. C'est tout cela. Donc, pour nous, il s'agit d'un acharnement et c'est regrettable.
Voilà donc pour la réaction d'Arlette Odia du PPRD. Et c'est dans ce contexte que les États-Unis et le Rwanda renforcent leurs relations bilatérales. Fin février, Washington a imposé des sanctions contre James Kabarebe, le ministre rwandais de l'intégration régionale, pour son rôle présumé dans l'offensive du M23 dans l'est de la RDC. Mais depuis, l'administration Trump multiplie les gestes de rapprochement avec Kigali. Lundi, les deux pays ont d'ailleurs lancé leur premier dialogue bilatéral stratégique. Explication Florence Maurice.
La signature a eu lieu en présence côté rwandais d'Olivier Ndungirehe, le ministre des Affaires étrangères. Washington et Kigali s'engagent donc à entretenir un dialogue régulier et privilégié sur 4 questions prioritaires, a expliqué le ministre à la sortie. La politique, l'économie, la santé et la sécurité, avec une volonté promouvoir leurs intérêts communs. Depuis un mois, les États-Unis multiplient les initiatives diplomatiques susceptibles de favoriser leur accès aux minerais stratégiques présents dans les sous-sols de la région des Grands Lacs. La déclaration de principe signée entre le Rwanda et la RDC à Washington vendredi dernier en est un exemple. Ce texte, présenté comme une étape vers un accord de paix, contient une particularité. Il aborde la question du commerce régional dans le secteur minier en indiquant que Kinshasa et Kigali pourraient s'entendre pour encadrer l'exploitation de ces ressources afin d'attirer les investisseurs. Une coopération qui faciliterait l'implantation des sociétés américaines. D'autant que parallèlement, Washington mène des discussions séparées avec le Rwanda et la RDC pour signer avec chacun de ces deux pays des accords prévoyant un accès à des ressources minières en échange de garanties de sécurité.
Explication signée Florence Maurice. L'Afrique du Sud a décidé de faire face à ses vieux démons après la pression de plusieurs familles de victimes. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé cette semaine la mise en place d'une commission d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi tant de crimes qui remontent à l'époque de l'apartheid n'ont jamais été jugés. Suite à la commission Vérité et Réconciliation perçue comme un modèle à suivre, il y a une trentaine d'années, de nombreux suspects qui n'avaient pas obtenu d'amnistie n'ont jamais été inquiétés. Claire Bargelès nous explique les demandes de cette nouvelle commission d'enquête.
Lucianio Calata fait partie des proches de victimes qui ont lancé une procédure judiciaire pour réclamer des réponses de la part du gouvernement sud-africain. Son père, Fort Calata, a été tué par la police de l'apartheid en 1985. Depuis, tous les suspects dans l'affaire sont décédés. Alors Lucianio espère comprendre pourquoi il n'y a jamais eu de procès.
C'est important pour nous qu'on nous dévoile qui sont ces personnes qui nous ont empêchés d'obtenir justice. Il faut que le pays sache qui est responsable. L'histoire doit être racontée dans son entièreté.
Suite à ces pressions, le président Cyril Ramaphosa aura finalement accepté la mise en place de cette commission d'enquête pour faire la lumière sur les soupçons d'interférence politique de la part des gouvernements ANC précédents. Cependant, le collectif de familles de victimes ne souhaite pas arrêter la procédure judiciaire, notamment pour obtenir des dommages et intérêts. Zaïd Kimi est le directeur de la Fondation pour les droits de l'homme qui soutient la démarche.
Nous attendons une action décisive sur ce point-là, et c'est pour cela que nous allons continuer la procédure devant les tribunaux. Le président a déjà indiqué qu'il allait s'y opposer, mais nous allons persévérer et demander à la Cour de prendre une décision.
Le collectif réclame près de 8 millions d'euros pour compenser ses droits constitutionnels bafoués et afin de financer de futurs procès ainsi que des événements commémoratifs. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
RFI à Johannesburg, il est actuellement 0h43.
Afrique Soir sur RFI.
Avec à suivre dans la seconde partie d'Afrique Soir, l'Afro Club d'Hervé Mondina alias DJ Facemaker, le dossier économie consacré à la filière coton en Afrique. Mais d'abord, la fête du travail au Sénégal. Ce jeudi 1er mai, plusieurs centaines de travailleurs se sont rassemblés dans le centre de Dakar. Rassemblement à l'appel de l'ensemble des centrales syndicales dans un contexte social tendu, marqué entre autres par une série de licenciements jugés abusifs. Les syndicats ont donc décidé d'unir leurs voix, car un an après l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, une certaine impatience se fait sentir dans les rangs des travailleurs. Reportage à Dakar, Léa Lisa Westerhoff.
Abrité du soleil sous de grands barnums, l'ambiance est joviale. Mais les vouvouzela et les pancartes, oui, un salaire décent, sont là pour rappeler l'urgence de respecter les engagements pris, comme l'explique Ibra Diop, ex-navigateur.
Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu gain de cause de tout ce qu'on était en train de lutter. Que la rémunération soit juste, ils n'ont même pas fait le cinquième de ce qu'ils devaient faire. C'est que dans toute la côte US africaine, le salaire du marin sénégalais est le plus bas.
Augmenter le salaire des marins comme promis en juin, mais aussi assurer les formations promises. Moussa Kassé, professeur du primaire déployé au collège, lui aussi commence à s'impatienter.
Le ministre de l'Éducation nationale n'a pas tenu sa promesse. Il avait bien dit que dès octobre, les sages de cours seront formés, beaucoup d'entre eux. Et jusqu'à présent, nous sommes vers la fin de l'année, on n'a rien vu. Et nous sommes plus de 2000 chargés de cours qui attendent.
Non au licenciement massif et abusif, peut-on lire sur de nombreuses banderoles. C'est l'autre grande revendication de ce 1er mai. Pour se faire entendre, les 12 organisations syndicales ont donc décidé de s'unir.
Parce que c'est une chose inédite au Sénégal qu'on renvoie dans la fonction publique.
Ousmane Diallo, membre du Front syndical pour la défense du travail.
Ça, vraiment, ce nouveau régime l'a fait. Mais nous, on va contre-attaquer en tant que syndicat, de remettre ces travailleurs dans leurs droits.
Réintégrer 400 fonctionnaires injustement licenciés, c'est l'une des demandes des syndicats qui devait figurer dans le pacte social signé dans l'après-midi entre gouvernement, syndicats et patronat. Une série d'engagements âprement négociés ces dernières semaines par les travailleurs et les employeurs. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Et en ce jour de fête du travail, Anselme Kovi-Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin et secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale internationale pour la région Afrique, était l'invité d'Afrique Midi au micro de Nicolas Sûr, qui lui a d'abord demandé comment se portait le droit des travailleurs d'Afrique en ce 1er mai 2025.
Je dois objectivement avouer que les droits des travailleurs en Afrique en 2025 sont en difficulté. C'est un mouvement général, c'est vrai, dans le monde entier, où, disons, attaquer le syndicat est devenu un peu la mode pour beaucoup de gouvernants, mais encore plus en Afrique, parce que, justement, la situation, le contexte africain est un contexte qui est fait d'un syndicalisme, disons, un peu faible, de par le taux de syndicalisation, un peu faible par un certain nombre d'insuffisances internes. Et donc, tout cela mis ensemble fait que la situation du syndicalisme dans le monde étant ce qu'il est, en Afrique, c'est encore plus difficile parce que ce sont des violations de droits, ce sont des refus de reconnaître les droits du travail. C'est également un certain nombre de brimades vis-à-vis des responsables syndicaux. Et donc, globalement, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire quand on parle des droits du travail en Afrique.
Quels sont les pays du continent où la situation est la plus préoccupante?
Je dirais d'abord les pays francophones en général où vous avez un taux de syndicalisation qui est, disons, autour de 3% dans le meilleur des cas, mais également les pays francophones où vous avez une atomisation du paysage syndical qui fait que le pouvoir social est un pouvoir complètement érodé, affaibli, et donc où les travailleurs sont défendus par des organisations qui sont vraiment en difficulté vis-à-vis de l'employeur. Mais depuis quelque temps, on remarque également que les pays qui étaient pour nous des pays de référence, notamment quand je prends la Tunisie avec la grande confédération UGTT, et qui apparaissait il y a quelques années comme un syndicalisme fort qui peut faire face à tout ce qui arrive comme mal gouvernance, aujourd'hui est en difficulté avec la gouvernance actuelle en Tunisie, ce qui fait que vous avez des pays qui étaient des références, qui semblent entrer dans le rang parce qu'ils vivent aujourd'hui les mêmes réalités que nous. Et puis vous avez les pays en guerre ou les pays qui connaissent des situations d'insécurité, notamment prenez le Burkina Faso, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger, où un certain nombre de décisions sont prises au nom de la géopolitique, au nom des consignes sécuritaires, qui sont des décisions dirigées contre les syndicats, contre les travailleurs, qui n'ont plus vraiment, disons, tout le confort qu'il faut pour poser des revendications d'ordre corporatiste, parce que on leur oppose à chaque fois la situation du pays et qui demandent de leur part de se taire un tout petit peu sur leurs revendications.
Anselme Kovi-Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin et secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale internationale pour la région Afrique, répondait aux questions de Nicolas Sûr. 450 millions de dollars, c'est la somme récoltée par un groupe d'organisations philanthropiques dont la fondation Gates pour créer le fonds Beginnings. Lancé mardi à Abu Dhabi, ce fonds vise à sauver la vie des nouveau-nés et des mères en Afrique subsaharienne. Les précisions de Willy Diallo.
En plus des 450 millions, les différents financeurs ont également promis 100 millions de dollars d'investissement direct dans la santé maternelle et infantile. À elle seule, la nouvelle fondation émiratie Mohamed bin Zayed pour l'humanité a contribué à plus du tiers du financement de ce fonds. Objectif affiché, sauver la vie de 300 000 mères et nouveau-nés d'ici 2030 et fournir des soins de qualité à 34 millions de mères et de bébés. Le siège du fonds est installé au Kenya et ses opérations seront menées dans 10 pays anglophones, dont le Ghana, la Tanzanie ou le Malawi. Concrètement, le fonds servira à travailler aux côtés des gouvernements et des experts africains afin de suivre et de cibler les principales causes des décès des nouveau-nés et des mères. En Afrique, les affections néonatales sont l'une des premières causes de mortalité et c'est aussi sur le continent que surviennent 70% des décès maternels au monde. Le fonds Beginning était en préparation depuis plus d'un an et pour sa directrice générale, Alice Kangete, son rôle est devenu d'autant plus important depuis le retrait de l'USAID et le ralentissement de l'aide internationale.
Une précision signée Willy Diallo et puis le tour cycliste du Bénin à présent avec la quatrième étape disputée ce jeudi entre Boïcon et Atiémé. 111 km et un sprint massif à l'arrivée remporté par un Néerlandais. Au classement général, le Sud-Africain Reinhard Jans van Rensburg est toujours maillot jaune avant les deux dernières étapes, bien sûr. En attendant l'étape du jour arrivée à Atiémé, à la frontière avec le Togo, l'occasion pour Olivier Pron, notre envoyé spécial sur place, d'aller à la rencontre des éperviers et tout cela à vélo.
Pas vraiment le cœur ambiancé, le Togo à quelques kilomètres de chez lui. Dernière équipe classée, les éperviers qui ne sont plus que 4 sur 6 au départ, en bave sur les routes du voisin béninois. C'est l'expérience, nous dit leur directeur sportif Emilien Ouetto.
Nous avons une très jeune équipe actuellement qui a besoin d'acquérir beaucoup plus d'expérience. On va sur pas mal de tours avec l'appui de notre ministère pour acquérir un peu plus d'expérience. Pour parvenir à notre tour, qui démarre dans 2 semaines apparemment.
Apparemment, oui, le 15 mai, et il y a encore du travail pour des coureurs relégués dans les profondeurs du classement, mais très optimiste, Blaise Kofi Dotse, dernier.
Vraiment, c'est dur.
C'est-à-dire, pourquoi c'est dur?
Premièrement, ce sont les moyens et les matériels, mais le nouveau président promet que ça va venir. Dans peu de temps, tout va s'améliorer. Il faut travailler et puis ça va aller. Dans peu de temps, le Togo va dépasser le Bénin.
On en est loin, mais pourquoi pas? Nulaleng Chualem garde la foi.
C'est un métier difficile. Tu es seul sur ton vélo. Tu es obligé de se démerder jusqu'à venir à l'arrivée. Donc, il y a l'esprit de combativité là. Donc, c'est un bon métier. Oui.
Un beau métier et des dirigeants pour rêver.
Si l'occasion permet, on va shipper une étape. Hein.
Méthode couée ou optimisme démesuré, les Togolais donnent rendez-vous dans 15 jours sur leur tour. Apparemment, Olivier Promboïcon, RFI.
Cinquième et avant-dernière étape, donc ce vendredi, Winnie Porto Novo, la capitale, 107,5 km pour être précis. Et on en vient au dossier économie consacré aujourd'hui à la filière coton en Afrique. Les 28 et 29 avril, l'Association des producteurs de coton africain, l'APROCA, a célébré ses 20 ans d'existence lors de son assemblée générale à Garoua, dans le nord du Cameroun, le bassin cotonnier du pays. Présente dans 15 pays du continent, l'APROCA a su devenir un acteur incontournable de la filière en défendant les intérêts de plus de 2 millions de producteurs répartis dans plus de 31 000 coopératives et quelques 300 participants de 8 pays étaient réunis pour 2 jours d'échanges intenses. Objectif, dresser l'état des lieux de 2 décennies de travail et surtout débattre de la feuille de route de l'APROCA pour les 10 prochaines années. Reportage Charlotte Cosset.
Premier grand objectif, une meilleure professionnalisation des cotonculteurs pour tirer le meilleur parti de leur activité. Pour cela, l'APROCA aimerait notamment voir renaître son université coton. Le président de la Fédération des producteurs du Togo, Koussoué Kouroufé, également président de l'APROCA.
Que ça soit l'affaire régionale, pour qu'on mette en place l'université coton qui soit appuyée par les États, nos partenaires, l'UMOA et autres, pour que vraiment les enjeux ou bien les problèmes du coton soient traités là-bas. L'objectif, c'est ça, c'est pour former les chercheurs, les agronomes, les entomologistes, tout ce qui est du coton. Cette université coton, elle doit être la bienvenue vraiment pour réfléchir à long terme sur la production du coton.
Autre grand défi, l'adaptation des cotonculteurs au changement climatique. Pluie torrentielle, sécheresse prolongée, érosion des sols ou encore ensablement affectent les rendements. Face à cela, l'APROCA cherche des solutions et entend convaincre les autorités à suivre leur dynamique. Koussoué Kouroufé.
Au moins, même si on a le changement climatique, qu'on s'adapte à ça avec les chercheurs pour trouver les variétés qui sont résistantes au changement climatique, qui est un bon rendement. Aussi, pourquoi pas aller vers l'irrigation à contre-saison. Et c'est notre idée. Nous allons faire des plaidoyers auprès des gouvernements.
Autre priorité, mieux rémunérer et mieux protéger les cotonculteurs. Youssouf Djimé Sidibé, le secrétaire permanent de l'APROCA.
De plus en plus, nos partenaires techniques disent qu'il y a de l'argent du coton. Effectivement, il y a de l'argent.
Les recettes de coton ne sont pas contrôlées par les producteurs. Vous savez, la filière coton, c'est une filière où il y a beaucoup d'acteurs. Et parmi l'ensemble des acteurs, c'est le producteur qui prend le plus grand risque. Mais c'est l'acteur le moins assuré et le moins payé également. Donc, à cela n'en tienne, nous nous battons pour pouvoir exister et pour pouvoir atteindre aussi nos objectifs, qui est de permettre aux producteurs de vivre décemment de sa production.
Parmi les objets de bataille à venir de la PROCA, la mise en place d'une assurance climatique agricole pour les producteurs de coton. Charlotte Cossé, Garoua, RFI.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
On les place justement à l'Afroclub avec évidemment l'ambianceur d'Afrique Soir pour son dernier rendez-vous de la semaine. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Et bonsoir à vous, Zéphira Quadio.
Oui, j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure à votre sélection de ce soir et j'ai noté qu'elle est moins rythmée qu'à l'accoutumée et on va le vérifier dès la première chanson avec notamment la chanteuse Lou and the Yakuza.
Oui, pour le 1er mai, il vaut mieux ne pas brusquer les choses. Lou and the Yakuza, de son vrai nom Marie-Pierre Kakoma, fait un retour remarquable avec No Big Deal, un EP intime et poétique défendu par le titre Good to Know, à la croisée de la pop et du R&B, chanté en français et en anglais avec une esthétique onirique dont elle a le secret. Lou and the Yakuza est une artiste épurée, sensible et affirmée qui nous promet un nouvel album avant la fin de l'année.
La nostalgie me prend au cœur quand je me regarde à travers le miroir. Qu'est-il arrivé de si noir à nous qui détestions pourtant la PACA? Mon temps d'un ami me brise le cœur. J'ai plein de larmes qu'on s'étend de nos choix. Qu'est-il arrivé de si noir?
Voilà, une découverte intéressante à mettre dans toutes les playlists des vacances. Beaucoup plus surprenant à présent, c'est le chanteur tanzanien Harmonize et qui se met presque au gospel dans sa chanson.
Et vous pouvez même dire Harmonize.
Harmonize, ah bah ouais,
voilà,
alors.
Figure majeure du Bongo Flava et fondateur du label Condé Gang nous a pris de court en dévoilant donc une facette profondément intime de lui-même dans sa chanson Yé Yé, un titre spirituel et bouleversant dans lequel il s'adresse à Dieu en Swahili. Loin de ses morceaux festifs habituels, Yé Yé est une prière mise en musique, un aveu de vulnérabilité et une quête de sens face à la solitude, aux fausses promesses de la célébrité et au désespoir. Harmonize y confie ses luttes personnelles, les dettes, les pensées sombres et la perte de repères, jusqu'à sa reconnexion salvatrice avec la foi.
Je trouve que Harmonize, c'est mieux qu'Harmonize. Allez, place à la séquence rétro du jeudi qui nous replonge en 1997. Année où la chanson I Wanna Be The Only One du groupe britannique Eternal était number one des classements.
Eh ben, dis donc, c'était il y a tout juste 28 ans que les premières dames du R&B britannique des années 90 décrochaient donc leur seul et unique titre numéro 1 en duo avec le chanteur américain B.B. Winans. I Wanna Be The Only One était le troisième single de leur album Before The Rain. Ce titre est devenu l'un des morceaux les plus diffusés en radio au Royaume-Uni et en Europe en 1997, remportant au passage plusieurs récompenses dont un Mobo Award et une nomination au Brit Awards. En 2019, la chanson figura encore parmi les singles les plus emblématiques des 25 dernières années au Royaume-Uni. Et ça swing.
Yes, I see you crying. I feel your broken heart.
Yeah, 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 yeah.
I can feel your hurting.
C'est une séquence rétro-historique qui porte bien son nom avec Eternal et B.B. Winans. Et pour conclure, l'Afroclub, on revient en 2025, mon cher Hervé, avec le duo d'artistes camerounais Asaba et Kossi.
Oui, Asaba et Kossi qui viennent enrichir la scène musicale camerounaise avec leur collaboration 001, sortie le 18 avril dernier. Une chanson qui fusionne leurs univers respectifs pour offrir une balade amoureuse empreinte d'émotions sincères. Asaba, connu pour sa voix douce et ses compositions introspective, apporte une touche de vulnérabilité et de tendresse, tandis que Kossi, réputé pour son énergie, ajoute une dimension passionnée et dynamique à l'ensemble.
Quand tout a commencé, c'est les cadeaux qu'on me saraka. Taraka. Yeah, yeah. Tu m'as promis la terre et le paradis Jérusalem. Mais pourquoi tu as changé? Je fais ménage, je prépare, je fais mon mieux.
Voilà, c'est avec l'Afro Club du jeudi d'Hervé Mandina que s'achève cette demi-heure d'info africaine réalisée par Raphaël Lazizi, rédactrice en chef Sabine Mélé, attachée d'édition Simon Bulle-Baudin. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée à l'écoute de Radio France Internationale avec à suivre dans 30 secondes un nouveau journal. Oh,